Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1avec nos invités. Nous sommes avec Guylaine Ottenheimer du magazine Challenge. Bonsoir Guylaine.
Bonsoir.
Bienvenue sur le plateau. Louis Haussalter de Marianne. Bonsoir.
Bonsoir
Louis.
Laurence.
Vous êtes l'auteur de cet excellent livre L'étrange victoire Macron 2, l'histoire secrète aux éditions de l'Observatoire, coécrit avec Agathe Lambray. Et nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir mon
bonsoir,
cher Louis.
Bonsoir cher Laurence.
On va parler de pouvoir d'achat si vous le voulez bien. Ça va être le premier projet de loi présenté par le gouvernement au Parlement. Ça sera sans doute à la mi-juillet. Entre-temps, il y a la France Insoumise qui a fait un certain nombre de propositions. On va les écouter. Puis après, on parlera de la mesure que Bruno Le Maire a déjà remise dans sa poche sur les promotions à 50% dans les supermarchés. D'abord, Mathilde Panot de la France Insoumise sur les propositions sur le pouvoir d'achat.
Ce texte est très très loin d'être à la hauteur de ce qu'attendent les Français. Et je veux dire que si les macronistes ne veulent pas bloquer le pays, ils pourront, lors des discussions qui s'engageront à l'Assemblée nationale, voter et faire en sorte que nos propositions puissent s'appliquer dans le pays. Nous allons maintenant les développer. Eux ont voulu faire respirer les profits. Nous voulons faire respirer les Français. C'est le sens de la proposition de loi que nous vous présentons aujourd'hui.
Guylaine Ottenheimer, ça y est, ils sont au travail, les députés de la France Insoumise. Ils ont des propositions et ils comptent bien les imposer à Elisabeth Borne.
Oui, la négociation ne va pas être facile parce que pour le moment, on ne peut pas dire qu'elle est beaucoup ouverte au jeu. C'est genre, vous venez jouer avec nous, avec nos règles, ou bien sinon, ben, c'est ce qu'a dit Macron au début du conseil le premier conseil des ministres, en disant ben, ils veulent pas nous rejoindre, c'est leur faute, s'il n'y a pas d'union, etc. Moi, ce que je regarde, c'est que avec toutes ces histoires de chèques, de primes, de revalorisation, de déblocage, etc., c'est très gentil, mais on est à 59% de dépenses publiques. Le ministre de l'économie qui est ministre de l'économie depuis 5 ans qui dit ça y est, on a atteint le point critique pour les finances publiques et tout ça n'est pas du tout financé, alors moi, je sais pas du tout comment ça va se passer. On va attendre la loi de finances de l'automne pour savoir comment on sort de tout ça. Les spreads, c'est-à-dire les différences entre les taux français et les taux allemands est en train de s'élargir. Ça va quand même poser une crise au niveau européen. On peut pas continuer à faire des chèques comme ça. Alors il faut construire des systèmes un peu pérennes, parce que je pense que l'inflation va s'installer sur le long terme. Je ne crois pas du tout, comme certains ont dit au début, Bruno Le Maire a beaucoup dit, ça va s'arrêter, ça ne va pas durer longtemps. Si ça s'installe, parce qu'il n'y a pas seulement des pénuries de matériaux, mais des pénuries de main-d'œuvre, il y a des embouteillages dans beaucoup d'usines de fabrication de pièces. Donc voilà, je pense que l'inflation va s'installer. Donc il faut être dans un système durable et pas juste un chèque, une promotion. Et puis il faut que les Français sachent, il faut leur dire, c'est aussi le rôle des dirigeants, qu'on va vers des jours assez difficiles.
Absolument. Louis Haussalter, il faut jouer la carte de la vérité avec les Français ou leur donner des chèques pour les aider ponctuellement, même si c'est très ponctuel.
Bah, le problème, c'est que on a sans doute une crise économique grave qui arrive cet été si la situation continue comme ça. Et ça, Guylaine a rappelé les fondamentaux, c'est-à-dire l'inflation qui n'est pas temporaire, contrairement à ce qu'on aurait pu croire au début, pénurie de matériaux, pénurie de main-d'œuvre, chaîne de valeur affectée, c'est-à-dire qu'à l'échelle mondiale, quand vous fabriquez un composant, et bah, tout prend du retard parce que la Chine est paralysée, parce que la guerre en Ukraine a eu des conséquences, parce qu'il y a des sanctions européennes, parce que les transporteurs sont débordés. Enfin, tout est réuni. Et je mentionne aussi la hausse des taux, évidemment, même si les banques centrales vont peut-être devoir revenir sur certaines décisions fin juillet pour pouvoir tout de même aider les gouvernements et les ménages. Donc tous les éléments sont réunis pour l'instant pour qu'une crise éclate. Et évidemment, ce sont d'abord les plus fragiles qui vont trinquer. Donc moi, je comprends tout à fait la politique d'échec dans l'urgence, c'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui l'essence est à 2 euros, 2,50 euros en ce moment, qui ne peuvent plus aller au travail. En fait, concrètement, c'est ça que ça veut dire. Sur les mesures d'urgence, je comprends et je pense qu'à l'Assemblée, il peut y avoir des mesures sur lesquelles à peu près tout le monde peut s'accorder, en tout cas sur lesquelles le gouvernement pourra trouver une majorité parce qu'il prendra l'opinion publique à témoin en disant « vous voulez pas aider les Français ». Mais sur le plus long terme, il va falloir quand même plutôt se mettre en configuration de gestion d'une crise économique. Et évidemment que ça ne peut pas être le quoi qu'il en coûte qui résout cette situation. À chaque fois, il faut vraiment reconfigurer la façon dont le gouvernement continue à protéger les Français, mais à long terme, pas uniquement en gestion de crise.
Louis de Ragnel, ce que j'évoquais pour Bruno Le Maire, il a sorti une idée, c'était les promotions à 50% dans les supermarchés, puis tout d'un coup, la FNSEA, Christiane Lambert, a dit pas question, et il l'a remise dans sa poche. C'était une erreur?
Alors,
Je ne sais pas si c'était une erreur, mais en fait, ce qu'on voit bien, c'est que le gouvernement n'a pas les idées extrêmement claires sur la question. Il y a des idées qui émergent depuis une semaine. Et puis on voit bien qu'en fait, à l'épreuve de la réalité, il y en a qui sont très compliquées à mettre en œuvre. Par exemple, vous savez, les aides pour justement toutes les personnes qui doivent prendre leur voiture pour aller travailler. Comment est-ce qu'on fait très concrètement? Non, mais la question est basique. Hein.
Qui on sélectionne?
Avec quel type de véhicule? Comment est-ce qu'on fait pour réellement prouver que Guylaine Ottenheimer a fait le trajet entre son domicile et Europe 1 et que en fait elle n'est pas allée acheter une baguette de pain après que du coup l'État prend en charge des déplacements personnels de Guylaine.
Je suis en vélo.
Vous êtes à vélo, alors c'est plus simple. Non, et du coup en fait chaque mesure est un véritable casse-tête. Pourquoi ? Parce que un, il y a plus d'argent dans les caisses et je rejoins entièrement l'analyse de Guylaine. Et la deuxième question, c'est parce que en fait comme on décide de faire du ciblage et du cas par cas, eh bien vous adaptez à la réalité de la vie des gens et du coup c'est pas simple. Ce que je remarque simplement et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on retrouve des vrais clivages gauche-droite. À gauche, le ciblage est clairement à destination des minima sociaux, des chômeurs,
du SMIC,
des personnes qui sont inactives, ne travaillent pas ou sont dans la grande précarité. Et vous retrouvez les propositions, par exemple, des LR ou une partie des propositions du gouvernement qui visent beaucoup plus les classes moyennes, c'est-à-dire des gens qui travaillent, qui galèrent, qui essaient de joindre les deux bouts, mais qui ont une activité. Et donc, pour essayer de les inciter à ne pas décrocher complètement. Et du coup, je trouve que c'est ça qui est le paradoxe de cette crise d'un point de vue politique, c'est qu'on retrouve ces clivages qui ressortent de manière extrêmement forte et je serais curieux de voir de quel côté va pencher le gouvernement. Est-ce que du coup, il va plutôt pencher vers l'incitation à destination des gens qui travaillent, donc qui créent de la croissance au quotidien, ou à destination des plus précaires et
mais
donc minima sociaux.
Mais en même temps, Louis, en même temps, c'est ça qui va
oui,
se passer.
En fait, n'est pas possible parce que vous pouvez pas contenter tout le monde. Le problème, c'est que le gouvernement a énormément de mal à dire non, il y aura des gens qui ne seront pas servis les mesures.
Ce qui est intéressant, c'est que au début, on a commencé à dire on va faire baisser le prix de l'essence en enlevant d'un centime ou du centime, je ne sais plus combien. Ça va servir à tout le monde. Tout le monde leur est tombé dessus en disant mais oui, mais vous aidez aussi bien celui qui roule avec une Porsche qu'avec celui qui va avec sa voiture pour aller au travail. Donc il faut cibler. Très bien. Alors on commence à cibler et on s'aperçoit, comme vous dites, que c'est très compliqué de savoir est-ce qu'on cible ceux qui travaillent. Mais alors les indépendants, comment on fait pour savoir s'ils vont vraiment être au travail, etc. Donc c'est très compliqué de faire des mesures ciblées, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que finalement, si ce débat avait eu lieu à l'Assemblée nationale, chacun aurait pu avancer ses arguments, dire non, c'est compliqué de cibler, donc je préfère faire une mesure générale. Oui, mais alors les classes moyennes, c'est ça qui devrait se passer au Parlement.
Et après, je vous rejoins totalement sur la méthode. Après, il y a quand même la question butoir, la question de fond, et c'est celle que vous évoquiez au tout début.
Qui finance, qui paye?
Non, mais les caisses sont vides et le diagnostic des besoins budgétaires à l'instant T, c'est-à-dire aujourd'hui, le diagnostic n'a rien à voir avec les besoins futurs. Qui vous dit que le prix de l'essence ne va pas continuer d'augmenter? Aujourd'hui, ça coûte un peu plus d'un milliard d'euros par mois à l'État. Rien que l'aide pour le prix de l'essence. Si le prix de l'essence continue d'augmenter, l'État, est-ce que l'État va être en mesure de suivre?
A priori, le Brent est en train de chuter.
Si on veut rejoindre les critères de Maastricht, il faudrait économiser 100 milliards par an.
Mon Dieu. On n'y est pas. Allez, une toute petite pause. On parle politique juste après.
Ça va revenir.
Louis Hausselter. On parlera d'Emmanuel Macron. L'étrange victoire, c'est le titre de votre livre. Dans quel état d'esprit peut se trouver le président aujourd'hui? On est à 73 jours, je crois, après son élection. Et l'équation politique qui se dessine pour lui n'est pas simple. À tout de suite.